Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
6h31 et on va commencer avec la météo d'Estelle Gaz. Estelle, c'est encore des giboulées aujourd'hui.
Oui, de la pluie un peu partout hein, sur le pays au fil de la journée, ainsi qu'en Corse du Sud, sauf de la Bretagne, au centre Val-de-Loire, jusqu'à Agen et Bordeaux. Il y aura de très belles éclaircies, puis du soleil hein, sur le pourtour méditerranéen, avec toujours ces rafales de vent pouvant atteindre les 70 km/h. Ce matin, 3 à 12 degrés, puis cet après-midi, 9 à Mulhouse et jusqu'à 19 à Nice.
6h32.
RMC, Apolline Matin.
Excellent réveil à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans Apolline Matin. C'est l'heure du journal d'Élise Dangean, bonjour.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. J-100 avant les Jeux Olympiques de Paris 2024, mais il n'y a pas qu'à Paris que ça se joue. Marseille, Lille, Châteauroux, les villes hautes se préparent. À Flamanville, on se prépare à toute autre chose. La mise en service du tant attendu EPR, ce sera cet été avec 12 ans de retard sur le calendrier, fin de la consultation publique aujourd'hui. Il est fier d'être parisien et les parisiens sont plus que jamais fiers de lui. Kylian Mbappé a répondu présent hier soir face au Barça. Le PSG se qualifie pour les demi-finales de la Ligue des Champions.
Et ça y est, on y est. J-100 tout pile avant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques.
RMC.
Jeux Olympiques de Paris 2024.
J-100.
Cérémonie qui, vous le savez, se tiendra à Paris, mais il n'y a pas que la capitale qui se prépare, il y aura des épreuves un peu partout en France et d'ores et déjà les villes hautes organisent l'arrivée des athlètes, des spectateurs et même pour certaines de la flamme olympique. C'est notamment le cas de Marseille et de Lille où l'ambiance JO commence progressivement à monter. Ameline Lafchin.
Dans les gymnases de Lille, les amateurs de basket en parlent à chaque entraînement.
On est en plein championnat et les jeunes ne rêvent que de ça.
Rabah Boudersa est président de Lille Basket et dans son club, tous ont hâte de voir leur idole jouer dans leur ville.
Victor Wembanyama, LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant. Aller voir en vrai, c'est quelque chose de spectaculaire. Voilà, ils rêvent un peu.
À Marseille aussi, on rêve JO, en particulier chez les commerçants qui ont hâte de voir l'événement débuter. Marie-Pierre Cartier est présidente de l'association Commerce Positif.
On est tous dans les starting block. On est tous impatients d'avoir tant de joie dans la ville. C'est l'accueil chaleureux du Marseillais qui va parler très fièrement de sa ville.
Une effervescence qu'on commence aussi à ressentir à Châteauroux où se dérouleront les épreuves de tir. Et à cette occasion, le maire de la ville, Gilles Averrousse, habille les rues aux couleurs des Jeux.
On aura une flamme lumineuse devant la gare en arrivant. Beaucoup d'aménagements festifs. Un ciel lumineux sur la rue de la Poste qui est notre rue commerciale principale. C'est un peu comme à Noël. Pour les Jeux Olympiques.
Et la mairie ne s'arrête pas là puisqu'un concours est organisé pour gagner des places pour la cérémonie d'ouverture.
D'ailleurs, notez que la billetterie des JO rouvre ce matin à 10h avec à la clé 250 000 billets pour tous les sports mais aussi pour la cérémonie d'ouverture. Premier arrivé, premier servi.
Et vous le savez, on vous les offre ces places aussi sur RMC. On a gardé, c'est simple, les 100 meilleurs, honnêtement. Journée spéciale aujourd'hui, d'abord des émissions spéciales toute la journée, et puis des places à gagner toutes les heures pour la cérémonie d'ouverture, pour la finale du 100 mètres, pour le judo, le tennis de table, la natation. C'est simple, pour gagner, vous envoyez Paris 2024 au 7-32-16. Un gagnant toutes les heures qui repartira avec deux places. Bonne chance à tous.
Et dans tout le pays, c'est le branle-bas de combat pour être prêt le jour J, car au-delà de la cérémonie et des épreuves, il y a un enjeu d'image. On attend des millions de touristes, des étrangers notamment, qui vont parcourir la France et qui vont découvrir nos routes. Des routes en piteux état pour près de 20% d'entre elles, selon l'Office national de la route. Illustration à Langon, au sud de Bordeaux, avec Pierre Bourgès.
Et on monte dans la voiture du maire de Langon, Jérôme Guillem, pour découvrir les rues de la commune.
On s'est arrêté, ça s'appelle le chemin des tanneries. Et il y a 15 jours, on avait 10 cm d'eau dans la rue. Ces phénomènes pluvieux créent dégradent la voirie. Je pense qu'on sera entre 70 000 et 100 000 euros cette voirie-là.
C'est près de la moitié du budget annuel de l'entretien des routes pour la commune, un budget qui n'a pas augmenté depuis 10 ans, la faute à des aides de l'État divisées par 3 sur cette période.
C'est pas parce qu'il reste des trous dans les chaussées ou qu'on n'a pas envie d'agir, c'est tout ça. Simplement qu'on ne peut pas transférer la dette de l'État sur les collectivités. C'est au risque de sujets d'aménagement, de sécurité, notamment sur les voies routières.
D'autant que l'entretien des routes coûte de plus en plus cher, alors il faut aller chercher les moyens autre part pour François Durovray, en charge de la mobilité à l'Association des départements de France.
Nous avons 1 million de kilomètres de route. Seul 1% bénéficie de 99% de recettes de péage. Nous avons le droit à une part du gâteau.
En près de 10 ans, la France qui avait les des infrastructures routières les mieux entretenues du monde a chuté de 18 places selon un classement du Forum économique mondial.
6h36 sur RMC, dernier préparatif avant la mise en service de l'EPR de Flamanville, prévu cet été avec 12 ans de retard sur le calendrier. La consultation publique menée par l'autorité de sûreté nucléaire se termine aujourd'hui et dans cette petite commune de la Manche, on attend cette centrale avec grande impatience, Martin Cadoré.
D'énormes poteaux à haute tension surplombent la boulangerie où travaille Émilie. Bientôt, il devrait distribuer l'électricité du nouvel EPR.
Enfin, ça fait très longtemps qu'on en entend parler et qu'on attend. C'est chez nous, donc oui, on est fiers.
Un chantier qui a apporté la prospérité dans la petite commune.
On a énormément de gîtes qui se sont ouverts. Ça fait vivre la ville quand même. Les clients qu'on a, c'est beaucoup les gens de la centrale quand même.
C'est quoi votre prénom, madame ?
Annie.
Ah, vous travaillez sur la centrale.
Ça fait 18 ans que j'y suis. Ça paye mes factures. Ça a donné du travail pour tout le monde. Hein.
C'est pour cela qu'il est mal vu de critiquer l'EPR et pourtant, 12 ans de retard, des soudures défectueuses, des anomalies sur la cuve, ça interroge Nicole, une habitante.
Oui, voilà, on en a entendu parler, c'est pour ça que les craintes viennent de là. On attend de voir, quoi. Est-ce qu'on doit partir le jour où ça va démarrer ou pas ? Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, ça changera rien, quoi.
Les associations antinucléaires, elles, envisagent un nouveau recours juridique avant la mise en service. L'une d'elles est présidée par André Jacquet.
Là, aujourd'hui, on est dans une accumulation de défauts sur l'EPR qui, à notre sens, le rendent totalement incapable de démarrer en toute sécurité pour les populations.
Un EPR qui aura finalement coûté 19,1 milliards d'euros selon la Cour des comptes, presque 6 fois le budget initial.
6h37, le football et quelle soirée pour le Paris Saint-Germain qui a renversé le Barça 4 buts à 1 et qui décroche son ticket pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Les hommes de la soirée, Dembélé, Vitinha et Kylian Mbappé, auteur d'un doublé, l'attaquant qui a fini par se réveiller, Arthur Perrault.
Oui, des sourires et une longue accolade avec son entraîneur. Kylian Mbappé était attendu au tournant. Il a répondu présent à Barcelone en inscrivant un doublé. L'attaquant profite du moment.
C'est sûr que vivre des soirées comme ça en tant que Parisien, c'est grand. On a passé une étape de plus. Même si on avait perdu, je suis toujours fier d'être Parisien. C'est sûr que dans des soirées comme ça, la fierté, elle est encore plus grande. Et on est très content. On bat une équipe qu'on avait envie de battre. C'est ce qu'on a fait. Mais vraiment, félicitations au groupe.
Après avoir annoncé son départ à son président le 15 février dernier, Kylian Mbappé prouve qu'il est encore un joueur parisien. L'entraîneur Luis Enrique est rassuré par son
C'est notre leader indiscutable. Il faut vraiment mettre en avant le pressing que Kylian a réalisé avec Ousmane et Bradley. Chapeau. C'est une preuve que c'est un leader. Et quand Kylian fait les efforts, évidemment, on est bien meilleur.
L'aventure continue pour le PSG et Kylian Mbappé qui entre un peu plus dans la légende. Il intègre le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des Champions.
Les Parisiens qui affronteront Dortmund en demi-finale. Allez, ce sera dans 2 semaines. Dortmund qui s'est qualifié en battant l'Atlético hier soir 4-2.
Le quintet, Élise, 13h55 sur l'hippodrome de Reims.
Et voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Leur favori aujourd'hui, c'est le numéro 15, Edic Gema. L'outsider, c'est le numéro 3, Harmonie de Brévol. C'est poétique.
Et quand on le dit, on le dit comme ça.
Et d'un coup, on prend son temps. Et la course du quintet est à suivre en direct sur RMC Découverte.
C'était le journal d'Élise d'un jour, 6h39.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
On a besoin de travaux sur plus d'un tiers des routes de France. Voilà ce constat édifiant de l'Observatoire National de la Route. 18% des routes nationales sont en mauvais état, 10% des routes départementales également. Est-ce que vous le constatez ? Est-ce que ça vous inquiète ? Est-ce que ça a provoqué, je sais pas, même des dégâts parfois lorsque vous étiez sur la route ? Vous venez témoigner et nous le dire au 32-16. Et puis évidemment, si vous voulez passer pour saluer le PSG, vous êtes les bienvenus.
Oh,
il
oui.
est 6h39.
RMC Police Justice.
C'est l'heure de l'histoire du jour repérée et racontée par le service police-justice d'RMC. Bonjour Guillaume Biais.
Bonjour Apolline, bonjour à tous.
Guillaume, ce matin, vous nous racontez ce nouvel épisode dans l'incroyable affaire du maire d'Avallon, de la maire d'Avallon dans l'Yonne, mise en examen, incarcérée pour trafic de drogue. Les lingots d'or retrouvés chez l'élu étaient des faux.
Oui, quasiment tous des faux lingots. Au total, lors de la perquisition chez Jamila Absaoui, la maire d'Avallon, les enquêteurs avaient saisi 70 kilos de résine de cannabis, près d'un kilo d'héroïne, plus de 7000 euros en espèces et donc 20 lingots d'or sur lesquels planaient quelques doutes dès le départ. Et cela s'est vérifié. D'après le procureur d'Auxerre, les analyses viennent de confirmer que sur les 20 lingots saisis, 18 sont des faux, seuls 2 sont authentiques. Alors, d'où vient cet or véritable et dans le même temps, pourquoi ces faux lingots ? À qui ? À quoi étaient-ils destinés ? Ce sont des mystères de plus dans cette affaire hors norme. On le rappelle, sur les 6 personnes mises en examen pour trafic de drogue, 5 sont écrouées. Parmi elles, la mère d'hiver gauche d'Avallon ainsi que ses 2 frères. Une élue qui clame son innocence. Le trafic se serait déroulé dans son dos, à son insu. Sa grande maison aurait notamment servi de lieu de stockage. C'est aussi ce que dit l'avocat d'un de ses frères, qui la dédouane. Alors quel rôle exact aurait-elle joué dans tout cela? C'est au cœur de l'enquête de gendarmerie qui se poursuit sous la direction d'un juge désormais. En tout cas, localement, des habitants lui apportent leur soutien. Ils étaient environ 200 rassemblés dimanche devant la mairie.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 6h42, excellent réveil à tous.
À vous de nous dire.
Bon, je voudrais d'abord souligner quand même que Amélie est avec nous ce matin.
Oui,
Amélie,
oui. Bonjour.
Qui s'est remise de grippe.
Mais PSG, ça y est, fait des miracles. Là.
C'est le printemps.
Merci le PSG.
C'est le printemps. Amélie Rosy qui est avec nous. 6h44, c'est aussi évidemment le foot. Vous l'imaginez bien. Charles, qui a beaucoup d'émotions ce matin, qui reçoit beaucoup de messages d'auditeurs.
Oui.
J'ai jamais vu avec ce sourire.
Ouais. C'est vrai. Non, mais puis même des auditeurs qui reconnaissent qu'ils étaient sceptiques et que j'avais raison d'avoir de l'espoir hier.
Il faut quand même
s'en
souvenir. Et j'imagine que si vous nous avez écoutés à 6h44 hier, Charles était très serein.
Oui, j'ai
et vraiment, je ne sais pas si c'était de la superstition ou pas, mais en tout cas, il disait ça va passer, ça va passer, ça va passer.
Ouais. On a vécu trop de mauvaises soirées pour pouvoir vivre enfin une bonne avec le PSG.
Et Ali était en communion avec vous, Charles. Bonjour Ali.
Bonjour à toute l'équipe.
Comment ça va Ali? Vous l'avez suivi où le match alors?
Eh ben moi, dans mon camion.
Ouais.
Dans mon camion.
Seul ou avec les...
Tout seul, mais après on s'écrivait avec sur les réseaux avec des collègues que je voudrais remercier, que mon estomac remercie d'avance. Je voudrais les remercier fortement, si je peux me permettre, Riyad, merci pour ce qui m'attend. Et un petit bonjour à l'Amjed qui est toujours nul à fut et je voulais lui faire un petit coucou. Voilà.
Et vous avez parié des restos, c'est ça?
Vous avez parié des restos ou quoi?
Ah oui, parce que moi je suis supporter lyonnais.
Ouais.
Et j'aurais dit que je voulais que le PSG passe pour qu'il soit fatigué, pour qu'il nous laisse la Coupe de France.
Ah oui, le billard à 3 noms. Ouais.
Voilà. Et donc, on a parié un resto, un snack et un petit déjeuner.
Ah ouais, Et dans quel ordre? C'est ça la vraie question.
Eh bien, l'ordre, ce sera, étant donné que je pense que Paris va aller en finale, le jour de la finale, le samedi matin, je vais bien déjeuner, je vais bien manger à midi et on va couronner avec le resto le soir.
Ah, j'adore. Génial. Ça sera une très, très, très belle journée.
Et la victoire du PSG à la fin en Ligue des Champions, Ali. Hein.
Je leur espère juste pour que les Marseillais arrêtent de nous saouler avec leur étoile pleine de toiles d'araignée.
Ouais, mais à jamais les premiers.
On est les seuls à avoir une étoile.
On a le Marseillais. On a Laurent Neumann avec nous qui ce matin disait « on », effectivement, à propos de Marseille.
Notre Marseillais.
Vous allez voir, avec la chance qu'on a, vous allez voir que Marseille va aller jusqu'au bout de la Ligue Europa et Paris va aller jusqu'au bout de la Ligue des Champions. Et là, on a pas fini encore.
Les deux gagnent. C'est génial.
Ali, on salue vos copains. Et effectivement, je voulais le dire, on a de nombreux messages et notamment d'auditeurs qui disent ma première pensée au réveil, c'était pour Charles.
C'est pas beau, Charles. Oui. Alors d'habitude, c'est quand le PSG perd, mais là, c'est une pensée pour la victoire. Ça me fait très plaisir.
Ali, on va aussi parler de l'état de nos routes et notamment avec Olivier, parce que vous l'avez entendu, on vous le dit depuis ce matin, des nids de poules, des chaussées gondolées ou encore des bas-côtés déterminés. Nos routes de France sont en très très mauvais état. Après qu'on ait été très très fiers de nos routes, on était vraiment les premiers de la classe, nos infrastructures, nos routes. Mais désormais, les chiffres sont sidérants. 18% des routes nationales sont en mauvais état. Un tiers mériterait des travaux. C'est le cas aussi de 10% des routes départementales et en cause notamment un manque d'entretien. Et puis le climat, parce qu'on a connu l'alternance entre extrême sécheresse et grands épisodes de pluie. Ça use nos routes, ça use le bitume. Et dans le même temps, on a réduit les investissements pour nos infrastructures parce que les communes et les départements sont évidemment à l'os. On en parle avec vous. Est-ce que vous le constatez? Olivier, qui nous appelle de Calais. Bonjour Olivier.
Oui, bonjour Apolline et félicitations à Charles pour hier.
J'ai pas joué grand-chose.
Il s'est donné beaucoup de mal. Il y a cru déjà.
J'ai bourdi 4 fois du canapé. C'était mon seul effort hier soir.
Olivier, vous roulez beaucoup, vous. Vous êtes transporteur vous-même.
Oui, vous constatez alors. Mais dans les Hauts-de-France et je vais de temps en temps à Paris.
Ouais.
Donc, on va dire que depuis 10 ans, on se rend compte de la lente et inexorable dégradation du réseau routier français. Pourquoi la chaussée est soumise en permanence à des agressions multiples qui la fragilisent en accédant en l'usure. Tout d'abord, le trafic qui a augmenté, bien sûr, en 10 ans de temps. Tout passage d'un véhicule sur la chaussée provoque une petite fatigue de la route et l'use, de ce point de vue. Et surtout, les poids lourds sont particulièrement agressifs.
Mais vous le constatez, c'est-à-dire que quand vous roulez, est-ce que vous êtes obligé de faire attention, évidemment, au trafic, mais vous êtes aussi obligé de prendre en compte l'état de la route.
Alors,
ça change un peu la manière de rouler quand même.
Voilà, je fais attention déjà, une, au trafic, et deuxièmement, à l'état de la route, quand je ne suis pas sur autoroute, bien sûr, sur des nationales, etc., etc., parce que entre les nids de poules, etc., etc., c'est très accidentogène, c'est très dangereux, et je pense qu'effectivement, bon, je pense que l'État, alors bon, bien sûr, l'État n'a pas de l'argent...
Alors, je vais même vous dire, ça a coûté 3 milliards d'euros, si on fait vraiment l'enveloppe globale des réparations nécessaire. 3 milliards d'euros. Autant vous dire que vous l'avez entendu, Bruno Le Maire, il n'est pas tellement dans un moment où il va donner beaucoup d'argent. Il a même dit aux collectivités qu'il allait encore retirer un peu de l'argent donné aux collectivités. Donc il y a peu de chances que ce soit réparé à court terme, ce qui pose un problème. Il y a des moments où vous vous sentez un peu en danger ou ça ne va pas jusque-là, Olivier ?
Non, pas en danger, j'irai pas jusque-là, mais je fais très attention.
Ça oblige à une extrême vigilance.
Par contre, j'ai vu des personnes devant moi être en danger. Oui, bien sûr, oui. Oui. Non, je fais attention, bien sûr, mais c'est pas agréable de rouler, en plus, dans ce métier-là, avec tous ces problèmes-là, quoi.
C'est ça, c'est pas agréable. Et puis c'est mauvais quand même pour la voiture, enfin, pour le véhicule. Effectivement, tous ces nids de poules, on en parlera à 7h40, parce que la porte-parole de la Ligue de défense des conducteurs sera avec nous, tout comme le président du conseil départemental de l'Essonne qui, lui, dira aussi combien il est difficile pour les collectivités locales de dégager de l'argent pour réparer les routes. Merci, Olivier, d'être passé par le 32-16 et merci pour la salutation à Charles. Il est 6h50.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans un instant, racontez-nous, Laurent Neumann.
Oui, pourquoi et comment Rachida Dati a mis, figurez-vous, les archéologues très en colère.
Et puis, on n'avait pas osé vous en parler, Charles.
Mais j'ai enfin l'argument massue pour vous faire poser vos smartphones.
A tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
6h53, racontez-nous.
Racontez-nous.
Racontez-nous, Laurent, ce matin, vous nous racontez comment et pourquoi Rachida Dati a mis les archéologues français en colère.
Oui, à cause des propos tenus par la ministre de la Culture le 5 avril lors de l'inauguration du château de Dampierre dans les Yvelines. Propos sur l'archéologie préventive. Alors, c'est quoi l'archéologie préventive ? Eh bien, ça consiste à détecter, parfois à creuser pour sauvegarder des éléments du patrimoine susceptibles d'être affectés par des travaux privés ou publics. En gros, avant de construire une route, des logements, un centre commercial. On fouille, on vérifie qu'on ne va pas endommager un élément patrimonial. Or, qu'a dit Rachida Dati ? Eh bien que parfois, je cite, on faisait des fouilles pour se faire plaisir et qu'il valait mieux, je cite encore, mettre l'argent public dans la restauration du patrimoine plutôt que de creuser un trou pour un trou. Colère des archéologues dans une tribune publiée par Le Monde le 13 avril. Ils suspectent la ministre de vouloir changer la loi pour avoir moins de trous, moins de fouilles, afin de réduire les délais et les coûts en ne retenant que les prescriptions archéologiques les plus indispensables, donc au détriment du patrimoine. Il l'accuse même, alors attention, nouveau mot, d'être tripophobe, d'avoir la phobie des trous.
Non, voilà. C'est ça, c'est tripophobe. Que répond la ministre ?
Ah bah écoutez, vous me connaissez, j'ai joint hier son conseiller patrimoine, Édouard de Lemelay, lui-même fils d'archéologue d'ailleurs. Alors Rachida Dati, tripophobe, bonne nouvelle pour les archéologues. Promis, juré, il n'y a aucun projet de réforme de la loi sur l'archéologie préventive. Pas question de revenir ni sur la Convention européenne de Malte, dont la France est signataire depuis très longtemps, ni sur la loi française de 2001 qui fait autorité en la matière. D'accord, mais ses propos sur les trous inutiles, Rachida Dati les a bien tenus. Or, enquête faite, en réalité, il y a très peu de trous inutiles. 5 à 6% seulement des chantiers de construction et de rénovation donnent lieu à des fouilles. Alors du coup, la ministre aurait donc parlé trop vite, trop cash ? Non, répond-on au ministère, car ses propos concernaient seulement la restauration du château de Dampierre dont je vous ai parlé. Où le propriétaire privé a dépensé 2 millions d'euros pour exhumer les vestiges des bassins, mais ses coûts élevés eh bien souvent ça rebute les communes et les propriétaires privés qui du coup renoncent à pratiquer ces restaurations. Du coup, ce que souhaite la ministre, c'est pas de changer la loi, mais de les accompagner. Vous savez quoi ? Nous, on va suivre le dossier et on va continuer à creuser.
Ah, oh, joli !
Très bon !
Une enquête mouillée de l'ordre.
Oh là là !
On n'avait pas osé vous en parler, mais Charles, vous a trouvé un bon plan pour se faire offrir une bouteille de vin au restaurant.
Oui, direction Vérone, en Italie, chic, où le restaurant Al Condominio a lancé...
Joli.
Il parle italien couramment.
Ben
oui, on a le droit d'être bilingue. Le restaurant Al Condominio, si vous préférez, a lancé une offre pour inciter les clients à se détacher de leur smartphone le temps d'un dîner. Si vous acceptez à l'entrée de placer votre téléphone dans un petit coffre fermé à clé,
c'est bien,
eh bien
ça.
Le resto vous offre une bouteille de vin. Il suffit de montrer ensuite la clé du coffre au serveur. C'est pas obligatoire, hein, mais le patron assure que 90% des clients opte pour cette offre et joue le jeu. Ils renoncent à répondre aux messages, vérifier les notifications, prendre en photo leur assiette. Pour des repas plus conviviaux, bon, il y a quand même 10% d'accro qui ne peuvent pas se passer de leur téléphone le temps d'un repas. Avec cette idée, ce restaurant de Vérone s'offre un joli buzz, un repris dans la presse dans l'Europe entière.
Un petit peu envie d'aller à Vérone, là.
Mais on y va tous, hein.
Et bah, pas besoin d'aller à Vérone, parce que j'ai regardé. Les Français ont eu l'idée bien avant. Du côté d'Albi, un resto vous offre le café et le Dijon si vous ne touchez pas à votre téléphone pendant tout le repas. Et du côté de Roya Chamalière, dans le Puy-de-Dôme, le restaurant du casino transforme un tiers de votre addition en jetons pour le casino. Encore une fois, si vous renoncez à votre smartphone à table.
J'adore.
Ouais, moi aussi. J'adore. J'achète total.
Ah ouais. Je bois surtout. Avec modération.
Ça fait quand même la bouteille de vin à Vérone que les jetons pour le casino. Hein.
Allez, on fait les deux dans un. Hein. Oui. 6h57. Vous êtes bien sur RMC. On se retrouve dans un instant pour la météo de journal.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.